Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi? Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit. Quand on peut, un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref, 9 mètres carrés, c'est l'espace d'un étudiant durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres carrés, histoire de souvenirs. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement, d'un phénomène, et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Contrôle.
Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de 9 mètres carrés. Pour cette émission, je suis accompagné de Charlotte et de Clémence pour débattre ensemble sur le thème de l'intergénérationnel. Et nous nous demanderons si nous sommes plus proches de nos aînés aujourd'hui. Salut les filles.
Salut.
Salut Camille.
Je vous laisse vous présenter et dire ce que vous pensez de l'intergénérationnel. Vous êtes nouveau dans 9 mètres carrés. La dernière fois, c'était Estée, Laura et moi-même. Maintenant, il y a vous deux. Clémence, je te laisse.
Moi, c'est Clémence. Je suis à la radio depuis l'année dernière. Et puis, je travaille avec Charlotte sur un podcast à la radio. Et dans intergénérationnel, moi, j'entends partage, union, rassemblement. Voilà, moi, ça me fait penser à ça.
Charlotte.
Et moi, c'est Charlotte. Donc, je fais partie aussi de la radio Sorbonne. Et dans intergénérationnel, j'entends déjà l'entente et le partage aussi. Et puis, voilà.
Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai appris qu'on faisait une émission sur intergénérationnel, j'ai tapé intergénérationnel sur Internet et c'est Logement international, intergénérationnel pardon, qui est sorti dans le top des recherches et avec de nombreuses initiatives, je pense notamment à Paris, où des logements sont créés pour que notamment les étudiants, on le verra tout à l'heure avec Elisabeth et Muriel, pour que les étudiants puissent loger dans un grand appartement en général avec une présence notamment, parce que ce n'est pas forcément facile d'arriver dans cette ville seule. Au sommaire de l'émission, comment comportons-nous ? Nous irons à la rencontre, je le disais, d'Elisabeth, une étudiante parisienne vivant avec Muriel, une dame âgée d'une soixantaine d'années. Nous verrons ensemble en quoi leur colocation est une source d'épanouissement personnel et où les échanges sont nourris au quotidien. Nous recevrons à la suite de ce reportage deux passionnés du vivre ensemble entre générations, Clément et Julia, qui sont partis faire le tour du monde pendant un an et à la suite de ce grand voyage ont décidé de créer le premier média qui parle des vieux. Inspirons-nous, c'est Clémence qui va nous inspirer puisqu'elle s'est rendue dans une friperie du Marais. Elle nous expliquera pourquoi les jeunes et moins jeunes d'aujourd'hui ont une fascination pour l'ancien et les vêtements d'antan. Échangeons-nous, c'est dans ce troisième volet que nous aborderons le rapport qu'entretiennent une mère et son enfant. Est-il si facile de devenir mère? Beaucoup pensent que l'instinct maternel est un talent inné, instinctif, voire naturel. Une mère doit-elle nécessairement tout donner au nom de l'idéologie patriarcale? Nous découvrirons sans surprise que ce n'est pas forcément le cas de toutes les mères avec Charlotte qui est partie à leur rencontre pour parler de leur maternité. Enfin, touchons-nous, l'origine du monde est-il un tabou entre les générations? La parole s'est-elle libérée au fur et à mesure des générations en ce qui concerne la sexualité de nos aînés? Bienvenue dans 9 mètres carrés. Comportons-nous. On commence donc par comportons-nous. Sommes-nous plus solidaires qu'il y a 20 ans ? J'entends beaucoup de critiques autour du fait que l'on ne serait plus aussi proche de nos aînés et que l'on serait prêt à ne plus aider n'importe qui dans notre société où l'individualisme est le maître mot. Je suis allé à la rencontre d'Elisabeth, étudiante et en économie, vivant chez Muriel, une femme âgée d'une soixantaine d'années. Elles vivent ensemble en colocation, partagent une même passion, le voyage et le cinéma. Je vous propose donc de découvrir comment ces deux personnes ont appris à vivre ensemble et comment chacune d'elles se nourrissent de l'autre.
Au début, je ne dis rien. Je dis oui, je partage l'appartement. Je suis logée avec une femme, je dis généralement. Et donc, ça va être mais attends, elle a quel âge ? Et là, je dis la soixantaine. Mais comment ça ? Mais c'est pas possible. Donc bonjour, je m'appelle Elisabeth, j'ai 19 ans, je suis originaire d'Alsace-Lorraine et je suis montée à Paris il y a 2 ans maintenant pour y démarrer des études. Mmh. Je suis en 3e année de double licence de droit et d'histoire à Paris 1 et ça fait 1 an et demi presque que j'habite avec Muriel.
Alors, je suis moi aussi alsacienne d'origine, c'est assez étonnant, ouais. Je les rencontre au travers de ça. Et j'ai 66 ans et je suis caméraman, chef-op comme on dit. Puis là, je fais des documentaires.
Comment est-ce que vous êtes venue l'idée de faire une colocation ensemble ? Par quel chemin vous vous êtes rencontrés ? Est-ce que c'était sur Internet, sur un journal, je ne sais pas, du bouche à oreille ?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais à une période où je déménageais moi-même. J'ai d'abord habité dans le 16e, dans une petite chambre de bonne, un 9 mètres carrés justement, sous les combles. Donc c'était assez terrible niveau...
Psychologiquement
déjà, la solitude, j'avais un peu de mal. Et puis même les conditions de vie, faut pas se le cacher, étaient assez déplorables. Donc je cherchais une colocation, vivre avec une ou deux personnes, de préférence en partageant un plus grand espace. Et j'ai commencé à chercher sur Le Bon Coin, du coup, parce que c'était le site où j'avais déjà trouvé ma première chambre de bonne. Et j'en suis arrivée à trouver du coup plusieurs pistes, dont encore d'autres chambres. Et il y a cette annonce, avec Muriel qui est apparue. Une chambre dans un appartement occupé par une dame, voilà, que je ne connaissais pas. Je suis venue pour une espèce de petit entretien, enfin pas vraiment un entretien, une petite rencontre quoi, pour en discuter. Et au final, le courant est très bien passé ce jour-là. Il y a quelque chose à faire. Enfin, j'avais déjà été assez séduite par son ouverture d'esprit. C'est vrai que je pense que de notre perspective de jeune, on a toujours l'impression qu'il y a cette barrière d'âge en fait, de se dire à un moment donné. Le contact sera un petit peu rompu, ou il y aura peut-être, on vient d'horizons qui sont tellement éloignés que la communication sera un petit peu rendue difficile. Et au final, je l'avais trouvé déjà très très jeune d'esprit, très dynamique.
Eh bien, moi, la chambre que Elisabeth Ellie occupe, c'est la chambre de ma fille. Et ma fille est partie en humanitaire une année. Quand elle habitait là, l'appartement était plein de ses amis. Et quand elle est partie, j'ai réalisé d'un seul coup qu'il n'y avait plus elle et il n'y avait plus les amis. Et ça m'a terriblement manqué. Mais je voulais effectivement proposer, je savais qu'il y avait des problèmes pour les jeunes et l'habitation, les jeunes étudiants et l'habitation à Paris. Je voulais proposer quelque chose de relativement ouvert, sympathique, pas très cher. Je trouve qu'on a des tas de choses à s'apprendre. J'apprends beaucoup avec Elisabeth, elle est d'une richesse extraordinaire. J'ai appris beaucoup de la plupart des jeunes qui sont venus et j'espère lui apporter un petit peu.
Complètement. Oui. C'est vrai que déjà, de base, j'ai toujours été attirée par les personnes plus âgées. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré en fait l'intergénérationnel parce que je me sentais beaucoup plus comprise, étrangement, et... ça permettait de créer des conversations que je trouvais un peu plus intéressantes qu'avec des gens qui avaient mon âge où les centres d'intérêt n'étaient pas forcément les mêmes. Et justement, les gens plus âgés, j'aimais déjà cette sagesse et ce savoir qu'ils avaient à m'apporter.
Ah oui, sagesse.
Ah oui. Alors, pas tous les vieux, mais en tout cas, mais je vais arriver à toi et c'est une vraie sagesse.
Je vous souhaite d'avoir interrompu.
Non, mais t'inquiète, mais c'était plutôt retrouver quelque chose qui m'avait toujours animée en soi, le contact avec les personnes plus vieilles. J'ai senti vraiment qu'elle était curieuse de ce que je pouvais moi-même avoir à dire, de mon point de vue, de mon regard sur le monde. Et donc, ça, déjà, c'était vraiment valorisant. Et puis, je sais qu'on partage parfois, on partage les mêmes centres d'intérêt. le cinéma, déjà les voyages. Alors, effectivement, les voyages, ça a été tout de suite le point d'accroche, quoi. Elle a beaucoup voyagé. Je me sens capable de dire beaucoup de choses sans être jugée, et peut-être même en ayant justement quelqu'un qui partage mon point de vue sur les hommes, sur avec un grand H évidemment, sur sur le monde qui nous entoure. Enfin, je pense qu'on se retrouve beaucoup dans pas mal d'opinions. Elle a maturé cette opinion-là avec sagesse et avec moi, j'en suis encore. Je me
et
cherche un petit peu.
Et peut-être le faire évoluer aussi.
Et oui,
avec un autre regard.
Voilà, nous sommes tous très inquiets du monde tel qu'il va. Hein, on est bien d'accord. On a ma génération, on n'a pas réussi à transformer le challenge, hein, véritablement le penalty qui était la fin de la colonisation, l'après-guerre, la Shoah.
Mais c'est intéressant justement parce que j'ai l'impression parfois que notre génération n'a pas cette prise de conscience, ou alors de manière très légère encore et pas en profondeur. Et de ce fait, justement, bah encore une fois, je peux l'extérioriser avec des personnes plus âgées qui, elles, ont un regard différent sur notre génération et qui vont se rendre compte de choses.
Apporter aussi des conseils.
Exactement. Enfin, ou des...
Pas des conseils, mais des suggérer quelque chose.
Donc c'est vrai que j'en arrive à mieux me sentir avec ces personnes-là, justement.
Est-ce que vous conseillerez, justement, à d'autres personnes de ta génération ou même de votre génération, à vous, Muriel, de vous lancer dans l'aventure ? Du logement intergénérationnel, au final, je peux l'appeler comme ça.
J'ai même fait des émules, j'ai plein d'amis qui le font maintenant, qui sont ravis, qui sont venus, qui sont ravis, qui disent « Oh, c'est trop chouette !» qui ont eu des enfants, ou pas d'ailleurs. Pour certains, c'est la découverte d'avoir à rencontrer ce que c'est que de vivre avec... C'est ça, c'est l'envie de découvrir cette génération. Et ce qu'elle amène, puis ce qu'elle apporte, et tout ce qu'on a. Parce qu'on a toujours à apprendre.
Une belle preuve donc de savoir-vivre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, Charlotte ?
Ouais, moi aussi, je pense que c'est très poétique, je trouve, d'une certaine manière. Et c'est très enrichissant. Je n'ai jamais vécu ça, mais je pense que c'est très enrichissant de tous les jours apprendre d'une personne plus âgée qui a vécu une autre époque. Et par contre, j'ai peut-être aussi une petite question, c'est sur le rythme de vie. Est-ce que moi, je vois mon rythme de vie déjà qu'avec ma mère, c'est compliqué. Alors, je me dis, avec une personne âgée comme Muriel, peut-être que peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. Après, je me fais peut-être une idée là-dessus parce que je ne connais pas justement
Tu vois, justement, elle nous disait qu'on avait un peu cette approche parentale du fait qu'une personne plus âgée, une personne plus jeune allaient vivre ensemble. Mais en fait, pas du tout. Il n'y a absolument pas ce côté autoritaire de Muriel avec Elisabeth. Et Elisabeth, elle fait complètement. Elle mène son rythme de vie comme elle l'entend, très active pour son âge. Elle a 66 ans. Et elle est caméraman, donc elle voyage beaucoup. Et donc, elle n'est pas souvent là. Et puis, Elisabeth.
Et même Elisabeth est souvent à l'université, du coup.
Effectivement, elle est souvent à l'université. Donc, elles ont un rythme de vie qui, finalement, leur permet toutes les deux. Se rejoint et elle se retrouve, elle nous dit, dans la cuisine le soir.
Le soir, c'est leur
comme
petit
on pourrait
rituel
le faire
pour
du colloque pourrait le faire de 20 ans, quoi. Donc c'est pareil. Donc non, le rythme de vie pose pas de problème dans ce qu'elles nous ont dit, en tout cas.
Et donc on accueille aussi deux passionnés de l'intergénérationnel, comme je vous le disais. On accueille Oldyssée, le premier média qui parle des vieux. Julia et Clément sont partis pendant un an à la rencontre des personnes âgées. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous sur le plateau de 9 mètres carrés. Donc je le disais, c'est un média qui s'intéresse aux personnes âgées. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de justement créer ce média d'une part, et pourquoi parler des vieux ?
Alors parler des vieux en France, on pensait que c'était important parce qu'on sent que le discours dominant autour de la vieillesse est plutôt négatif et plutôt angoissant. On a tendance à voir la vieillesse comme un déclin seulement, et de voir les vieux à travers le prisme de la dépendance. On exagère beaucoup ce sujet-là, alors qu'en réalité, 90% des personnes âgées de plus de 60 ans sont autonomes. Donc on voulait changer un peu le regard qu'on a sur la vieillesse, montrer que c'est une période de la vie qui peut être hyper épanouissante, qu'on peut être vieux et heureux jusqu'au bout. Et dans un deuxième temps, il y a aussi un fait de société qui est inédit aujourd'hui, à notre époque, enfin dans l'histoire de l'humanité, c'est la transition démographique, c'est le fait que la proportion des plus de 60 ans va augmenter. Et en France, en 2050, on dit qu'il y aura plus d'un tiers de personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, à avoir un discours assez négatif, dire que les générations vont forcément s'opposer, Et en réalité, si d'abord on regarde les études sociologiques, si on se tourne nous-mêmes dans notre famille, on voit plein de choses positives. On voit que les générations partagent les mêmes valeurs. On avait envie de montrer ça et de montrer que dans le monde entier, il y a des initiatives hyper positives, hyper inspirantes qui se font et qui pourraient être répliquées en France.
Justement, vous êtes parti pendant un an. Vous m'avez dit un an, 12 mois, 12 pays, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On est parti en octobre 2017. Mmh. Et tous les mois, on a fait un nouveau pays. Donc, on a fait à la fois des portraits, on faisait des vidéos dans chaque pays. Et on faisait des portraits vidéo de personnes âgées. Des portraits assez courts de 3 minutes pour montrer concrètement comment on vit, comment on vieillit dans ces pays-là. Et puis, on a fait des reportages vidéo aussi sur des initiatives qui sont des expérimentations, des projets qui sont hyper positifs et qu'on aimerait pouvoir un jour peut-être répliquer en France. Voilà. En tout cas, on voulait ramener de l'inspiration, quoi.
Donc, à ce jour, on a publié une trentaine de vidéos. En tout, on a vu, une trentaine d'initiatives. On n'a pas tout publié encore et c'est disponible sur Facebook. C'est publié tous les 10 jours. Et il y a une petite communauté qui se crée autour de ça. On sent que ça intéresse les gens, finalement.
Mais
ça,
c'était personnel comme initiative ou c'était...
Oui, tout est personnel, je pense, dans un engagement. Nous, personnellement, on a une image positive de la vieillesse à travers nos grands-parents. On a 28 et 29 ans, tous les deux. Moi, ce qui m'a marqué, c'est mon histoire avec ma grand-mère qui a été atteinte d'Alzheimer. Et j'ai essayé de la considérer... toujours comme un adulte, un être humain à part entière, enfin de ne pas l'avoir par la perte de la mémoire que par des déficiences, mais de la faire rentrer dans mon univers, de continuer à interagir avec elle, de continuer à rigoler. Et finalement, on a créé une relation assez spéciale, hyper riche, hyper marquante. Je pense que ça m'a donné envie de porter ça dans des médias et de montrer... De faire que tout le monde...
Oui, d'ailleurs, sur Alzheimer, il y a une vidéo moi, qui m'a beaucoup touchée. Je crois que ça se passe au Québec. Il y a une structure où les gens ont Alzheimer et vivent ensemble. Mais on dirait pas du tout un endroit pour les malades ou quoi que ce soit. Moi, ça m'a beaucoup touchée, cette vidéo. C'est quand, en France, qu'on va pouvoir faire des structures pareilles, je veux dire aussi positives, où on n'a pas la blouse, où c'est vraiment les gens qui vivent ensemble. Ça fait un peu communauté. Mmh. Et je trouvais ça très beau. Donc, c'est quand que chez nous, on va pouvoir...
Cet endroit qu'on a visité au Québec, ça s'appelle Carpe Diem. C'est vrai que ça nous a frappé parce que c'est une grande maison en bois où il y a une vingtaine de personnes qui habitent et que quand on rentre, on ne sait pas qui est malade et qui ne l'est pas parce que tout le monde cuisine ensemble, tout le monde fait la vaisselle ensemble, tout le monde se met en pyjama ensemble ce rapport entre la personne qui est malade et qui est prise en charge par les intervenants. Et nous, c'est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions sur pourquoi on ne trouve pas forcément d'endroit comme ça en France. Et l'une des réponses auxquelles on a pensé, c'est qu'il y a quand même un rapport différent au principe de précaution, ce qu'on appelle, c'est-à-dire pas le droit de prendre des risques, mais d'accompagner la personne... même si ça implique des risques, c'est-à-dire que dans cette maison, il y a des escaliers en bois. Et puis finalement, la gérante nous explique qu'il n'y a jamais eu de chute. Enfin, il y a eu deux chutes en 23 ans et qu'il y a plus de personnes qui sont tombées sur le sol alors qu'il n'y avait pas d'obstacle. Les personnes cuisinent et en France, on pourrait se dire est-ce qu'elles ne vont pas se brûler ? Est-ce qu'elles ne vont pas se couper ? Là, ils ne se posent même pas la question. Ils continuent de vivre comme ils l'ont toujours fait. Donc, c'est peut-être ce rapport un peu au risque qui est différent.
Après, il faut dire que là, quand on a publié cette vidéo, on a des commentaires. On nous dit que cette approche-là, elle fait des bébés. Elle est en train d'être testée à Grenoble, à Bordeaux. Donc, il y a des choses qui existent en France, plein d'expérimentations qu'il faut mettre en avant aussi, ce qu'on va essayer de faire par la suite, justement.
Et moi, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai vu sur votre site internet. Vous dites qu'il y a un tabou, en fait, en France, une sorte de désintéressement, voire un mépris autour de la vieillesse. Et je voulais savoir comment on pouvait changer, en fait, l'image des vieux dans la tête des jeunes.
Le côté un peu nouveau de nos vidéos, c'est qu'on montre les personnes âgées sous un nouveau jour. Et ça, ça participe à faire changer les mentalités, je pense.
Eh bien, merci à vous deux d'être venus sur le plateau de 9 mètres carrés pour venir nous parler de votre belle initiative. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur leur site internet, c'est oldyssée.fr, je ne me trompe pas.
Oldyssée.org.
.org.
Et sur Facebook, vous tapez Oldyssée.
YouTube aussi, YouTube, pour voir les belles vidéos. Il y a un parallélisme aussi avec Vieux et l'Odyssée d'Homère, ou c'est moi qui ai vu une vision trop littéraire?
Non, mais c'est vrai, on n'est pas allé jusque-là, mais il faut creuser, parce que c'est vrai qu'Ulysse, quand il rentre à Télémaque, la seule personne qui le reconnaît, c'est sa nourrice.
Le chien le reconnaît.
Oui, le chien aussi. Donc il y a quelque chose à creuser là-dessus. Mais O-L-D-Y-2-S-E-Y. C'est à l'anglaise, c'est un jeu de mots.
Ok, merci, on vous remercie beaucoup.
Merci.
Et je vous conseille d'aller voir. Oh, Lord, am I trouble so hard? Oh, Lord, am I trouble so hard? Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Inspirons-nous, c'est au tour maintenant de Clémence de nous inspirer. Si je vous dis épisode Guérisol, Kilo Time et bien d'autres, on pense tout de suite à la friperie. Ces petites boutiques qui ornent les rues de Paris et d'autres villes où les gens y vont pour dénicher la fringue qui va les rendre plus originales et plus excentriques. Moi personnellement, j'y vais pour trouver l'introuvable, des sweatshirts pas chers à 5 euros, des bananes, des casquettes Arte, Canal+, il y a toutes les chaînes de télé qui ont fait leurs casquettes, c'est génial.
Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours rêvé de rouler en deux chevaux, de porter des pattes d'eff, de participer à Woodstock et puis plus secrètement de m'allumer une bonne clope dans l'avion. Et je crois que je ne suis pas la seule. Dans Intergénérationnel, il y a un intemporel, un truc qui traverse le temps, qui résiste aux générations, aux sociétés. Malheureusement, la clope n'a pas résisté à ces changements. Mais on parle bien là de musique, de déco, de mode, d'accessoires. Et cette idée de chronique m'est venue dans le métro, souvent le lieu où on a les meilleures idées. J'étais dans le métro avec mes écouteurs, je regardais ni écoutais personne. Et il y avait une vieille dame à côté de moi, enfin en tout cas plus âgée que moi, qui s'est retournée d'un coup et qui m'a dit « Mais c'est fou cette génération ». Et donc cette vieille dame se retourne vers moi et me dit ça, et donc je comprenais pas sur le coup, je me re-retourne. Et puis effectivement, il y avait un papa avec un iPad pour calmer son enfant qui lui montrait dans la poussette. Et effectivement, il y avait un fossé entre ce qu'elle avait dû vivre et ce qui était en train de se passer dans ce métro à ce moment-là. Après, j'en ai conclu que notre génération ne faisait pas rêver l'ancienne, qu'elle doit bien se foutre de nous en voyant notre incapacité à dialoguer sans les technologies, que le naturel a foutu le camp. Puis ma deuxième conclusion, c'est qu'on a aujourd'hui une obsession pour un passé qui n'est pas le nôtre. Non, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est plus stylé de passer l'après-midi dans une vente au kilo et d'avoir un pull Emmaüs que d'acheter une paire de Nike neuve. Alors, tu as la phrase de ta pote qui t'énerve un peu, hors de question d'acheter un vêtement déjà porté. Les adeptes des fripes comme moi.
On aurait dû mettre la voix. Ouais. Hors de question.
Les adeptes des fripes comme moi diront que le vêtement a une histoire. On ne sait pas qui l'a porté ni dans quel contexte. Et ça, c'est cool. Et puis, comment résister à la folle odeur d'usé, de déjà servi qui traverse le salon
folle
du odeur, vintage.
Folle odeur. Moi, j'adore. L'odeur de poussière.
Ah non, moi, je suis.
Mais parfois,
fan.
C'est un peu trop quand même.
Ah non, moi, je suis fan, désolée. La mode, elle est donc au passé, le passé d'une génération qui n'est pas la nôtre, d'un temps que l'on fantasme, mais qu'on n'a pas vécu, mais qui ressurgit pourtant dans nos armoires et dans nos maisons. Donc, pour comprendre comprendre ce phénomène, je me suis intéressée aux friperies. Je voulais comprendre comment ces vêtements étaient apparus. Et je suis allée voir mon ami Aldo. Aldo, c'est le premier qui m'a vendu des Levi's. C'est le premier qui me les a coupés parce que dans le sud, il n'y a pas de friperies. Donc c'est à Paris que j'ai connu. Ouais, pas beaucoup en tout cas. Et je ne les connaissais pas. Donc c'est à Paris que j'ai découvert la fripe. Et c'est le premier surtout à m'avoir dit que des grosses fesses avaient le droit d'être dans un Levi's.
J'ai commencé la fripe en 1989, un peu par accident. Avant, j'étais projectionniste dans un petit cinéma de quartier. Et donc, je terminais mon travail à 2h du matin. Et je n'avais pas envie de me coucher, donc j'allais en club. Et à cette époque, la frontière entre les gens de la nuit et les fripiers était très, très mince. C'était à peu près la même philosophie de vie. Un jour, un copain m'a dit « Oui, demain, je n'ai pas, pas envie d'ouvrir mon magasin. Je te donne les clés et l'adresse si tu veux faire l'ouverture du magasin, etc. » Je fais « Oui. » Puis j'ai fait une journée, deux jours, ça m'a plu. Et j'ai abandonné le métier de projectionniste. Et ma troisième boutique, j'ai travaillé 23 ans dans la fripe. Il y a plusieurs raisons. Il y a les écolos déjà, de vêtements recyclables, etc. Donc c'est une bonne action. Et le point de vue économique, affirmer sa personnalité, essayer de marcher dans la rue et ne pas croiser la même personne avec le même vêtement. Ça s'est fait avec le temps. Pourquoi ? Parce qu'avant, on appelait ça surplus américain. Les Américains, quand ils investissent un pays, ils ne repartent pas avec leur matos. À la suite de la Première Guerre mondiale, juste après, il y a eu énormément, que ce soit un point de vue mécanique, vestimentaire, de choses américaines, laissées au pays. Donc surplus, ils ont dû vendre. Et puis à l'origine, c'est des surplus américains. Malgré que les vrais fripiers, à la fin du 18e, on était 700 à Paris. Okay. On nous appelait les faiseurs de mode. Ouais, pourquoi ? Parce qu'avant, le prêt-à-porter n'existait pas. Mais bon, sans le vouloir. Ah bah oui. Bon, au départ, je suis collectionneur de jeans. Donc, automatiquement, les vêtements autour du denim, ça c'est bien sûr. Et les militaires américains, les tenues d'appontage, c'était que du denim. Donc, c'est intéressant de connaître pourquoi, par exemple, le pas de def est né. En fait, le pas de def est né, bon, il existait en la fin du 19e aussi. Il était en velours, mais en fait, le grand public, il est né justement avec les surplus américains. Avec les tenues d'appontage, parce que les marins sur le pont avaient des pattes d'œuf. Il y a une photo assez célèbre de James Birkin, on le voit avec justement un pantalon acheté en fripe. Les gens, enfin moi j'adore l'histoire, donc souvent je me quitte mon personnage pour m'inventer un personnage, même si ça reste intimiste, mais je me la joue, disons. Et ça dure quelques moments. Après, je m'en lasse et je passe à un autre personnage. C'est les gens qui manquent de vécu, qui s'approprient un vécu vestimentaire.
Je vous invite à aller à Hippie Market rue du Temps, dans le Marais. Vous serez très bien reçus et puis certains de ressortir avec une pièce unique. Aldo, il nous parle d'un manque de vécu qu'on recherche et puis qu'on cherche à retrouver dans les vêtements vintage. Est-ce qu'on n'a pas assez vécu de choses ? Est-ce qu'il nous manque un background pour pouvoir porter nos vêtements de notre génération ? Est-ce que le futur ne fait pas un peu peur pour qu'on se réfugie dans le passé ? Et puis surtout, est-ce qu'on n'idéalise pas un peu ce qui s'est passé avant ? Non, parce que si on écoute les vieux, c'était toujours mieux avant. Moi, je ne crois pas. C'était mieux dans le temps. Est-ce que ce n'est pas un peu subjectif ? Est-ce que ce n'est pas un peu subjectif ce qu'ils nous ont dit ? Est-ce que ce n'était pas leur prisme, finalement ? Et on se met à avoir une nostalgie qui n'est pas, la nôtre. Hein. C'est un temps qui n'était pas le nôtre. Ce n'est pas une autre génération. Mais bon, là, on parle pas que de mode. Hein. C'est un réel art de vivre, un passé réinventé par notre génération.
Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a envie de s'habiller dans les friperies ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de... Moi, c'est à chaque fois, je me pose la question quand je vois des gens dans la rue, quand je vois comment je m'habille, pourquoi j'ai envie de m'habiller d'une façon genre les chemisettes qui descendent jusqu'en bas des coudes, les pantalons taille haute, enfin, je sais pas, genre...
Les vestes en tweed.
Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que aussi, à l'heure de la consommation de masse, je pense que c'est bien aussi de s'inscrire dans un temps long. Et même par le vêtement, je trouve aujourd'hui, on a l'impression que tout est jetable, qu'on va acheter un jean et qu'un an après, il va être de toute manière de la mauvaise qualité. Donc, on va l'acheter pour 15 euros et on va acheter le même l'année d'après, encore pour 15 euros.
Ça sent le vécu, ça.
Alors, exactement. alors qu'on aurait pu acheter un jean Levi's dans une fripe pour peut-être un peu plus cher, oui encore, et le garder, ça se garde pendant je ne sais pas combien de temps. Et c'est juste que après ça, les vêtements ont une histoire, et moi ça me rappelle ma tante qui me sort des vêtements des années 80 qu'elle portait dans les années 80. Moi, je suis incapable de sortir un vêtement que je portais il y a 5 ans.
Mais c'est normal. Moi, je sors des vêtements que j'avais achetés en 3e. Je mets des jeans que je me souviens, j'avais acheté en 3e. Mais après, c'est normal aussi. On le sortira quand on aura peut-être 40 ans. On se dira, oh, my God, je l'ai acheté.
Mon pantalon Zara, je ne pense pas que je vais le ressortir.
Si tu arrêtes de le laver, peut-être qu'il ne perdra pas.
Non, mais elle a raison. Il y a de la qualité dans le vintage.
Bien sûr, il y a de la qualité dans le vintage, mais il y a aussi de la qualité quand on sait qu'on achète de la qualité à l'heure d'aujourd'hui.
Oui, mais c'est moins cher.
Il y a aussi ce truc de se dire, les jeunes, enfin du moins les jeunes et les moins jeunes, ceux qui vont jusqu'à 40 ans, ont ce truc de se dire une fascination justement pour les années 80, les années 90, mais même encore avant les années 70.
Puis moi, je trouve que c'est aussi très joli quand on a une quelque chose de vintage sur nous avec avec d'autres habits qui sont de notre génération, mais quand on a une pièce vintage, je trouve que ça met en valeur cette pièce-là et elle ressemble plus du tout à ce dont elle ressemblait quand elle est sortie dans les années 80.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Non, c'est vrai.
On ne la porte plus pareil.
On les appelle bourgeois bohèmes ou bien bobos pour les intimes. Dans les chansons de Vincent Delerme, on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe. Des bourges et des prolos, pas loin des beaufs, quoique plus classe, mais vous en dressez le tableau. Sont un peu artistes, c'est déjà ça, mais leur passion, c'est leur boulot. Dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos.
Échangeons-nous, mais l'intergénérationnel, ce n'est pas que porter des vieilles fringues ou encore d'habiter chez quelqu'un de plus âgé que soi. On a tendance à oublier aussi à quel point nos aînés nous ont inculqué une certaine idéologie sur le monde, sur la façon dont on doit se comporter en société, mais aussi la manière d'élever son enfant, de le chérir, de lui donner tout ce qu'il a besoin. Le bonheur d'une mère passe après celui de son enfant.
Avoir un enfant, l'aimer, le chérir, le voir grandir. Oui, ça peut donner envie. Mais ce désir résonne différemment dans la tête d'une femme. C'était assez clair pour nos aînés qu'être papa et être maman ne relevaient pas du même métier. Un père ne s'est jamais vu condamné à être un mauvais père par manque d'instinct paternel, qui lui serait naturel, instinctif et universel. Pour la femme, c'est une toute autre histoire. La maternité s'accompagne d'une peur sourde, plus ou moins présente avant la naissance, qui porte sur le mythe de la bonne mère, cet idéal qui se transmet de génération en génération, se fonde sur ce fameux instinct maternel dont toutes les femmes seraient porteuses dès la naissance, comme un gène en plus, une sorte de sixième sens. Vous remarquerez qu'il est marrant de voir comment on rajoute aux femmes des attributs biologiques pour nous enlever des libertés. Bref, revenons à nos mères. Vous avez déjà tout entendu ces phrases faussement rassurantes. Être mère, ça ne s'apprend pas. Ne t'inquiète de rien. Dès que tu mettras ton enfant au monde, tu sauras répondre à tous ses besoins. C'est instinctif chez une mère. Maintenant, imaginez-vous un peu l'angoisse si la magie n'opère pas, si ce mystérieux instinct maternel ne s'empare pas du corps de la mère, qui se retrouve perdue à l'idée d'avoir la vie d'un petit être entre ses seules mains toutes tremblantes.
Et le baby blues non plus, on n'a pas le droit de vous en parler en fait. Le baby blues, baby blues, je sais pas qui c'est qui a inventé ce terme, mais enfin c'est un petit peu faible hein, comme mot le blues. Oh non, t'as pas le blues quand tu viens d'accoucher, non, Johnny il a le blues. Toi, tu fais une dépression postpartum, t'as envie de te pendre dans la douche, tout simplement. Mais bon, c'est pas joli, dépression, c'est pas beau comme mot, c'est caca. T'es con, t'es moche, c'est caca boudin, ça fait peur. Donc ils ont cherché un mot un peu plus... Oh, un peu plus vendeur, un peu plus marketing, ils ont réfléchi, puis ils ont trouvé baby blues. Oh. C'est joli, baby blues, c'est vrai, c'est mignon, on a presque envie de l'avoir. Hein? Wow, I get the blues. Après ça, tu vas te mettre à chanter avec une guitare sur ton lit, mais non, pas du tout. Tu te dis, pourvu que je l'ai. Oui, tu l'auras, ne t'inquiète pas. Il y a toujours des filles qui vous diront qu'elles ne l'ont pas eu. Hein. En général, c'est les mêmes qui vous disent que l'accouchement, c'était le plus beau jour de ma vie. Ah non, moi je les crois, hein, je veux bien, hein. Pas de problème. Mais ce que je me demande, c'est... ces filles-là, c'est à quoi ressemblent les autres jours de leur vie ?
Malheureusement pour nos mères, elles étaient vouées à être rongées par la culpabilité de ne pas savoir répondre aux pleurs de leur enfant. Quand il est propre, qu'il a mangé, qu'il a dormi, mais qu'il pleure, il pleure, et qu'elle, la mère, ne comprend pas ses cris, est désemparée, ne peut appeler personne à l'aide, ni même se reposer sur une épaule bienveillante. Les quelques femmes courageuses qui osaient mentionner leurs difficultés dans la maternité étaient immédiatement perçues comme des monstres insensibles, des mauvaises mères incapables de remplir leurs devoirs, ce pourquoi elles étaient sur cette terre. Ces femmes peuvent désormais se tourner vers les réseaux sociaux et trouver du réconfort dans les témoignages d'autres mères. Elles se sentent comprises et écoutées et peuvent sortir de cette angoisse tétanisante. Mais un autre discours s'est imposé sur ces réseaux. À côté des condamnations classiques d'un patriarcat immortel, une parole normative se répand à travers les photos idylliques de superwomen souriant avec amour à leurs enfants parfaits, ne montrant que la façade somptueuse d'un quotidien bien moins paradisiaque. Ce tableau d'un idéal superficiel qui envahit la toile nous rapproche de nos aînés, accablés par leur culpabilité de mauvaise mère.
Je peux te dire que là, j'ai compris l'expression « donner la vie ». Mais oui, depuis que j'ai donné la vie, j'en ai plus de vie. Il y a des mamans ce soir, oui, donner la vie, c'est fini après. En même temps, donner, c'est vrai quoi. Hein. Reprendre, c'est congeler. T'es au courant, c'est pas facile, surtout les premières semaines. Purée, tu te lèves au milieu de la nuit, t'es fatiguée. T'es toute blanche, t'as les cheveux en pétard, tu chantes des chansons cheloues, t'as l'impression d'avoir bouffé trop de Mylène Farmer, tu sais. Fais-toi tôt, maman est tôt pour du rouleau. Mais quel espoir pourrais-je avoir dans les bavards? Fais-toi tôt, déjà que t'as tué ma libido.
Aujourd'hui, on sait, et on le dit, on ne naît pas mère, on le devient. Et ce statut n'est pas naturel, il n'est pas inné. Il ne supprime pas la femme, qui, elle aussi, parfois, en a marre de son enfant. N'a pas envie de jouer avec, préfère aller travailler, boire un verre, regarder un film, lire un livre. Choisit de lui donner des petits pots déjà tout faits, même si elle a passé la journée à la maison. Parce que là, maintenant, elle n'a pas envie d'aller cuisiner. Pour personne, pas même pour son enfant. Nous sommes encore si proches de nos aînés dont la société faisait de ces mères des esclaves de leur statut. Nous avons créé un mythe culpabilisant de la bonne mère qui opprime chaque femme sous le poids de ses devoirs. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire cette chronique parce que les femmes du XXIe siècle témoignent de leur malaise. Le tabou est levé, la parole s'exprime en attendant que la femme se libère.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux ton ventre. Sentir le sang, la vie te tend, je veux un enfant. Passe 28 jours. J'attends mon tour. Sur mes dessous, le sang revient comme toujours.
Bon, du coup, je suis allée voir des mères pour qu'elles nous donnent leur ressenti sur la maternité.
Les difficultés, oui, bah on en a. Moi, j'en ai eu. Et on se sent quand même très seule. Je n'osais pas dire que. C'était dur, difficile pour moi, de temps en temps, de laisser ma fille chez une nourrice. À l'époque, je ne travaillais pas, et donc je culpabilisais. À l'époque, je sais que je n'en parlais à personne de ce que je ressentais réellement. Chacune restait dans son mal-être sans en parler. Je suis sûre qu'on m'aurait dit, mais t'es une mauvaise mère.
Oui, il reste un certain nombre de tabous sur la femme enceinte et puis ça ramène aussi à l'hystérie un petit peu, genre elle a ses hormones qui partent. Dans les grosses structures, il y a toujours la femme enceinte. Enfin, quand on embauche une femme, on se dit « Oula, attends, elle a genre 28 ans, elle va bientôt pondre un enfant. »
Si elle vient d'avoir l'enfant, elle ne sait pas ce qui se passe.
Les gens vont mal
la regarder.
Quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que ça n'a pas changé.
Et toi, Clem, alors, tu penses que ça n'a pas changé non plus ?
Moi, je pense que la parole s'est effectivement bien libérée sur le sujet, mais que ça reste encore compliqué. C'est marrant que les femmes que tu interviews parlent de culpabilité. Moi, j'ai ma maman qui m'a raconté qu'à la maternité, j'arrêtais pas de pleurer et que ben il fallait qu'elle dorme, quoi. Elle en pouvait plus. Donc, je venais de naître et puis elle a appelé les infirmières en rescousse en disant, mais écoutez, prenez ma fille, j'en peux plus, faut que je dorme. Et que c'était le moment le plus horrible pour elle et qu'elle a culpabilisé à mort après. Mais que je pense que c'était voilà une pression de elle, ce que sa mère lui a inculqué sur le fait qu'il fallait absolument se sacrifier pour ses enfants. Et qu'aujourd'hui, c'était il y a 20 ans, donc je pense qu'aujourd'hui on dépasse un peu ça et que ça va de mieux en mieux. Mais il y a encore du chemin à faire.
C'est vrai qu'on a... Enfin, moi je pense surtout qu'on a ce truc de se dire que, par exemple, une femme, comme tu le disais, c'est inné en fait. C'est inné chez une mère, dès qu'elle a un enfant, de l'aimer, de le chérir, de donner toute son énergie au nom de l'enfant. Et on oublie aussi parfois de dire qu'une mère reste une femme, au final.
Exactement.
Une mère reste une femme. Et moi, je me souviens aussi que ma mère, elle partait le matin très tôt au travail. Elle me laissait à la nourrice sur la route. Et jamais de ma vie, je me suis demandé, mais est-ce qu'elle culpabilise ou pas de m'avoir laissé à une autre mère, au final ? Et aussi le truc de se dire, tout simplement que pour elle c'était normal et au final c'était normal puisqu'il fallait qu'elle travaille. Il fallait bien que il y a quand même une certaine sorte aussi de se sacrifier dans un sens parce que c'est pas parce qu'on va chez nourrice que la mère oublie son enfant. Elle va travailler pour subvenir aux besoins de l'enfant et à mes besoins par exemple.
Même quand elle ne veut pas travailler, il y a des fois il y a des mères qui juste ont envie de se retrouver elles-mêmes et qui vont donner leur enfant à une nourrice. Et là, c'est très mal vu. Mais je pense que ce qui a beaucoup changé par rapport à la génération d'avant, c'est surtout qu'on en parle, alors qu'avant, c'était tabou et c'était surtout naturel qu'une mère fasse tout et on ne se posait même pas la question, comme tu l'as dit, si elle culpabilisait après t'avoir emmené chez la nourrice. On ne te posait même pas la question parce que c'était quelque chose de naturel. Aujourd'hui, on se pose la question et je trouve que c'est déjà une grande avancée qu'on en parle.
Mais du coup, vous pensez que... Enfin, je pense à ça à l'instant. Vous pensez que le débat avance parce que moi, je me dis, en fin de compte, je pense pas que ma mère dira ça à ma sœur quand elle aura des enfants, mais je pense que... Est-ce que ça avance vraiment au final ? Est-ce que le discours ne reste pas le même ?
Ben moi, je trouve qu'on avance sur le fait que l'argument de dire la femme porte l'enfant, donc forcément le sixième sens va opérer. Et je pense que c'est là-dessus qu'on avance. C'est pas parce qu'on porte un enfant. Effectivement, il y a cet argument-là. Biologiquement, on porte l'enfant. Mais après, dans la vie, une fois qu'il naît, ça ne revient pas à dire qu'il y a un truc qui soit propre à nous et pas aux hommes, du coup. Parce qu'effectivement, Chala a bien dit... Un homme, on ne lui a jamais reproché de ne pas avoir cet instinct paternel.
Ça change, c'est peut-être en train de changer.
C'est justement
moi, personnellement, je pense que ça change parce que moi, je trouve ça normal au final. Enfin, je ne vois pas pourquoi une mère devrait s'occuper de l'enfant, enfin, du ménage en général, et pas de la maison, et pas un homme. Je pense que ça avance.
Je pense que maintenant, quand un homme rentre et qu'on lui dit qu'il est fatigué, une femme peut rentrer aussi en disant qu'elle est fatiguée et que son enfant et qu'elle n'a pas envie de s'occuper de son enfant. Je ne sais pas si on peut encore le dire ouvertement. En tout cas, on le dit ici, c'est déjà
une avancée.
Thank you.
Et notre émission touche bientôt à sa fin. C'est avec Touchons-nous que nous allons conclure. Notre Laura nationale, notre Laura sexologue, s'est interrogée sur l'origine. L'origine est-elle un si grand tabou ? Est-il si difficile de parler de cul avec nos parents, grands-parents et nos aînés en général ? Depuis mai 68, on a tendance à croire que l'année 69 a été une époque de libération sexuelle. Mais cela est-il vrai ?
Allô mamie ? Je fais un mémoire sur la sexualité. Ah, c'est le sujet à la mode en ce moment. Une semaine plus tard, je vais déjeuner chez elle, et je lui parle à nouveau de mes recherches, et elle me tient toujours le même discours. Et je lui dis « Mais mamie, toi, qu'en penses-tu ? » Et là, je passe une heure à parler de sexualité avec ma grand-mère, de manière la plus décontractée possible, sans tabou. Alors comme ça, les vieux sont coincés du cul.
À propos des enfants, je me souviens qu'un jour, on m'a demandé... On m'a dit, mais est-ce que vous avez pris un jour votre garçon à peur pour lui dire, dis donc, voilà mon vieux, comment ça se passe, les choux, tout ça. Alors, ça m'était difficile de répondre autrement qu'en vers. Alors, j'ai écrit 8 petits vers que je vais vous dire. Ça fait comme ça, si vous avez des garçons de 15 ans, je vais vous donner mon adresse et je vous enverrai la brochure. Le rosier ne sait pas comment se font les roses. La lionne a des lionceaux sans avoir rien appris. Aimer, se reproduire est dans l'ordre des choses, moi-même je l'ai su, sans qu'on m'en ait rien dit. Laissez donc la nature expliquer ses mystères, laissez vos enfants croire aux enfants dans les choux. Ils seront en leur temps ce qu'il convient de faire et ce qu'ils devront faire, ils le feront, sans vous.
Eh oui, en 1958, on préfère utiliser les vers pour parler des choux. Et en 2018, parlons peu, parlons bien, parlons cul et génération. Comment se parle-t-on au sein de la famille du plus grand des tabous ? Je me suis d'abord intéressée à ces fameuses discussions gênantes que personne ne souhaite revivre. Alors en 2018, dans le top 1, vous avez LA discussion. Oui, vous savez, la première fois que votre père arrive avec une boîte de préservatifs, et vous ne savez pas s'il faut dire merci ou s'il vaut mieux ne rien dire. Après, il y a aussi la réplique gênante, hors catégorie. Pendant un long repas de famille du dimanche, où certains ont trop abusé du vin rouge, la blague bouffe est vulgaire. Oui, oui, celle qui est toujours sortie tôt ou tard, mais vous savez jamais réellement quand elle va arriver.
Hey ! Merci, mesdames et messieurs ! C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 euros. Et d'un coup, il voit des trucs qui sautent dans les poils. Il dit, dis donc, ce serait pas des morpions, ça ? Et la pute, elle dit, bah, pour 10 euros, tu voulais pas des gambas, quand même.
Voilà, maintenant vous êtes bien gêné et vous buvez votre verre très longuement pour oublier. Revenons aux conversations. Celle de la discussion, par exemple, de LA discussion. Elle vous gêne, mais pourquoi ? C'est la manière dont on en parle ? Dois-je préciser qu'il y a une différence entre MA sexualité et LA sexualité. Peut-être que l'origine même du tabou est qu'on est juste bien con. On dirait que parler sexe en famille, c'est comme pratiquer l'inceste. Alors que non, j'ai pas raconté mon coup d'un soir d'hier à mon père, ou j'ai pas raconté à ma grand-mère non plus à quel point j'aime la levrette. Là, c'est du voyeurisme.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite.
Parler sexe en famille, c'est se poser des questions sur son intimité. C'est parler de consentement avec sa mère et de l'usage du porno avec sa sœur. Parler sexe en famille, c'est avoir une discussion profonde sur des sujets importants pour que la sexualité ne soit pas construite sur des clichés, sur une violence ou perçue comme un danger. Parler sexe en famille, c'est avoir un cadre privilégié pour préserver son intimité. Car oui, le sexe, c'est pas juste avoir des enfants et c'est pas juste baiser. Parler sexe en famille, c'est avoir plusieurs générations qui sont construites différemment et apportent un éclairage unique pour chacun. Alors ouvrons le débat. Parlons-nous, écoutons-nous, vieux, jeunes, ados, parents, enfants. Michel Comte disait « Ne pas parler de sexualité, c'est ne pas parler de soi ». Il serait donc temps de lever un tabou sur le plus vieux sujet du monde.
Mais du coup, est-ce qu'on peut réellement parler de tout avec nos parents, nos grands-parents et nos aînés en général, et surtout parler de cul, Clémence ?
Bah écoute, nous on parlait facilement de cul à la maison. Non mais c'est vrai, c'était
plutôt... Passe-moi l'expression s'il te plaît.
Non mais attends, c'était plutôt naturel d'en parler. Alors moi j'en parlais plus avec ma maman, hein, parce que je vis avec ma maman et ma sœur. Mais voilà, on en parlait plus avec ma mère. Et après, on en parlait naturellement, mais il y a plein de sujets qu'on n'abordait pas. Par exemple, la masturbation, c'est pas venu sur le tapis. On n'en a jamais parlé toutes les deux et tout. Mais après, oui, conseils.
Mais vous auriez pu en parler.
On aurait pu en parler. Mais c'est vrai que je pense que la masturbation, c'était tabou chez moi. Donc tout n'était pas à dire.
Mais pourquoi ?
Je sais pas. Je pense qu'il y avait un truc très pudique de la sexualité qui nous appartient. Donc je pense qu'on parlait... Peut-être que ça lui faisait moins peur finalement, je sais pas. Peut-être que ça lui faisait moins peur que ce qui pouvait m'arriver avec un garçon, je sais pas.
Toi, Charlotte ?
Et moi, parler de sexualité avec ses parents en général, que ce soit sa mère ou son père, celui dont on se sent plus proche, je trouve que c'est important pour se développer et puis pour ne pas faire de bêtises, pour avoir la bonne idée
de la sexualité,
et puis pour les raisons médicales, etc. Par contre, de là à parler de sexe, c'est-à-dire je ne pourrais jamais parler de préliminaire ou de l'acte en lui-même avec ma mère. Donc je sais que
entre deux bonnes copines, tu pourrais pas.
Voilà, j'en parle à mes amis. J'en parle à mes amis, ça y a pas de souci.
J'en sais quelque chose.
Merci Camille. J'en parle à mes amis, mais par contre à ma mère, je me suis même pas posé la question avant aujourd'hui. Et quand je me la pose, je me dis que c'est juste pas possible.
Clémence.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut garder
cette barrière,
cette distance,
ouais,
tu vois, distance. De position de parent, position d'enfant, de transmission de ce que tu veux.
Mais
de,
tu pourrais parler par exemple de ça avec ta grand-mère ?
Ma grand-mère, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ce serait plus. Je sais pas si ce serait plus facile d'en parler avec ma grand-mère. Je pense pas. Je vais pas jusque là quand même. Mes grands-parents, c'est un peu plus compliqué quand même.
Le rapport, par exemple, je sais pas. Ou... Je pense aussi, moi, je pense, j'aurais tendance à croire que justement, il est plus facile entre une mère et sa fille de parler de sexualité qu'une mère avec son fils et d'un fils et avec son fils.
Ah ouais, tu détrompes, toi. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont très très proches pour pas l'avoir vécu moi, mais pour connaître des amis qui sont très très proches de leur père et qui parlent facilement de sexualité avec leur père. Et c'est par exemple lui qui était allé chercher leur pilule ou des choses comme ça. Et il y en a qui... Si.
Que ça les dérange pas, ouais.
Et
ouais,
qui se sentent plus à l'aise avec leur père.
Chacun, je pense, a sa manière de tourner la chose. Et chacun, aussi les parents, décident de l'éducation qu'ils ont envie de donner à leur enfant. Moi, je me souviens aussi d'avoir déjà assisté à... d'avoir été chez des amis et pas... On était à table et il parlait de ça ouvertement. Mais vraiment, genre, enfin, pas d'un langage vulgaire, mais je me souviens que je savais plus où me foutre. J'étais assis dans ma chaise, je mangeais des steaks frites à l'époque. Enfin, c'était un truc de ouf. Et moi, je me disais, mais s'il me demande, et toi, Camille? Je saurais pas quoi répondre. Moi, j'ai envie de leur dire, mais wesh, ça te regarde. En fait, c'est pour ça. Et moi, personnellement, moi, je sais que j'en reçois pas forcément le besoin de parler de ça au final avec mes parents.
Mais tu sais que si tu pourrais en parler si tu en avais besoin.
Oui, je pense que j'aurais pu en parler avec ma mère ou mon père. Ça me dérange pas d'en parler avec mon père ou même ma mère au final de parler de ça. Mais je me suis fait ma sexualité tout seul. Puis on oublie aussi de dire qu'on parle beaucoup entre amis, entre gosses au final. Et ça se peut que une personne fasse sa sexualité tout seul. Enfin, du moins. Pas avec ses parents, par exemple, ou du moins ses grands-parents, ou avec une personne plus grande. Il y a aussi des gens, je pense, qui en parlent à leur psychologue. Il y a qui vont chez le psy. Moi, ça n'a pas été mon cas, par exemple. Mais je pense aussi que la thérapie avec un professionnel peut vachement aider. Je pense que ouais. Et il y a aussi tout ce milieu où les éditeurs, au final, même les auteurs, ont su prendre le pas d'initier, entre guillemets, les enfants. Je pense notamment aux Zizi Sexuels de Titeuf. C'était un livre génial.
Toute une génération, ce livre a été vraiment... ça peut paraître un peu désuet comme ça, mais ce livre a été une des premières portes d'entrée sur la sexualité et sur comment la vivre. Et je trouvais ce livre très sain et à donner à son enfant.
Qui était très décrié en plus à l'époque. Je pense que c'était décrié.
On le confisquait à l'école et tout. Oui.
Mais je trouve que ça... Et puis ça a aussi forgé toute une génération qui s'est formée là-dessus. Et
c'est un modèle
aussi. puis c'est devenu très sympa à s'en rappeler. Et puis.
Et puis voilà. Sommes-nous plus proches de nos aînés ? Donc c'était le débat que nous avons essayé de tenir sur notre deuxième émission de 9 mètres carrés. Nous avons essayé d'y répondre. Charlotte, une réponse pour à la question : sommes-nous plus proches de nos aînés ? Est-ce qu'au final, après Odyssée, après le cas d'Elisabeth et de Muriel, après notamment les mères que tu as rencontrées, après la friperie de Clémence, est-ce que tu penses qu'on peut parler de sexe, par exemple, avec nos aînés ?
Moi, je pense que les initiatives sont là aujourd'hui. Mmh. Elles n'y étaient pas avant. Je pense qu'avant, c'était du silence, que maintenant, on en parle. Donc, c'est le premier pas. Et j'espère que plus tard, ce sera plus on en parle, parce qu'on n'aura plus besoin d'en parler, parce que ce sera fait. Et donc, je pense que là, on est dans une transition et qu'on va réussir à être... et que la prochaine génération sera plus proche de ses aînés.
Et en espérant Clémence, tu as peut-être un mot de la fin.
Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que ça va aller de mieux en mieux et qu'il y a un réel vivre ensemble qui va se créer de plus en plus. C'est pas qu'entre générations, c'est entre tout le monde. Et ça commence par respecter nos aînés et ça commence par apprendre à vivre avec eux.
Le respect mutuel, c'est ce qu'on retiendra. Voilà, 9 mètres carrés touche à sa fin. Les touches-touches sont maintenant terminées, n'est-ce pas Laura ? Comme la dernière fois, on va aller s'installer sur la terrasse de Grande Contrôle puisque j'ai envie d'une bière fraîche. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on sera ravis de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de 9 mètres carrés. C'était le deuxième podcast natif du journal étudiant Sorbonne en collaboration avec Radio Grande Contrôle. Merci à eux. Merci à Charlotte, Laura et Clémence qui m'ont aidé à préparer cette émission et merci à vous. Pensez à réagir sur les réseaux sociaux du journal. Cette émission est la vôtre. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos de vos 9 mètres carrés. À bientôt. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.